Chapitre 51. Agnetta et Hugo sont assis dans la suite et attendent l'arrivée de l'hypnotiseur. La lumière de l'autre côté des fausses fenêtres a été tamisée pour donner l'illusion du crépuscule. « En tout cas, Eric Maria Bark a beaucoup de charme, » dit Hugo.
« Il est beau ?» demande-t-elle en souriant.
« Il me fait penser à un acteur, mais je me souviens plus de son nom. Il jouait dans un film où... »
Hugo s'interrompt lorsqu'un coup léger est frappé à la porte. Lars entre accompagné d'un homme d'âge moyen, vêtu d'un pull bleu bouloché et d'un jean, le front plissé et les yeux doux, un peu tristes.
« Bonjour Hugo, » dit-il avec un sourire désarmant.
« Salut. »
Il se tourne vers Agnetta qui se lève et lui serre la main.
« Eric, » dit-il en la regardant dans les yeux.
« Agnetta, » répond-elle, sentant ses joues s'échauffer. « Mon premier amour s'appelait Agnetta, » dit Eric avec une énergie débordante. « J'avais 7 ans, elle en avait 20. » « Il ne s'est évidemment rien passé. Elle était remplaçante à l'école. »«
Désolé, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Mais avant de m'arrêter, je tiens juste à préciser que j'ai eu de vraies relations depuis. »«
Je disais justement, » dit Hugo, « que tu me faisais penser à un acteur qui est très beau et qui...
Je vois très bien qui tu veux dire. » sourit Agnetta.
Soit vous vous moquez de moi pour me faire rougir, dit Eric, soit il s'est passé quelque chose depuis que je me suis regardé dans le miroir ce matin.
Hugo est maintenant allongé dans son lit pendant que Lars Grint fixe les 6 dernières électrodes sur son crâne. Cette fois, ils vont combiner l'hypnose avec un examen polysomnographique. Eric Maria Bark ferme les rideaux et tamise encore un peu la lumière.
Excusez-moi pour la question un peu bête, mais vous travaillez pour la police ?
Demande Agnetta.
Non, je suis médecin de formation.
J'ai un cabinet et je mène des recherches à l'Institut Karolinska. Mais je suis souvent sollicité lors d'interrogatoires de témoins traumatisés.
Pour de l'hypnose ?
Parfois, mais en général non.
Grint met les moniteurs en marche, vérifie les connexions, lève le pouce et annonce qu'ils ont bien le contact avec Major Tom.
« Yuna Lina ne devait pas être présent aujourd'hui ?» demande Agnetta.
« Il ne devrait plus tarder, mais on peut commencer par un peu de relaxation.
Je vais juste me laver les mains, » répond Eric en quittant la pièce.
Sur 3 moniteurs s'affichent les courbes graphiques des 22 capteurs fixés au corps de Hugo. Ils sont destinés à surveiller son activité cérébrale et cardiaque, ses mouvements oculaires et son activité musculaire durant les différentes phases de l'hypnose, induction, suggestion et transe profonde. Eric s'assied sur une chaise à côté de Hugo, lui explique, comme la fois précédente, le fonctionnement de l'hypnose clinique, puis commence à le guider dans des exercices de respiration et de relaxation. Le regard sceptique et moqueur qu'avait Hugo la première fois a disparu. Maintenant, il semble surtout effrayé.
Hugo, on ralentit un peu plus la respiration, dit Eric doucement.
Tu es en sécurité ici. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Inspire par le nez, remplis bien tes poumons, puis expire lentement par la bouche, pendant que tes paupières deviennent de plus en plus lourdes.
Hugo sent l'odeur douce du savon sur les mains d'Eric, tandis qu'il l'aide patiemment à relâcher les tensions, à ressentir sa nuque et ses mâchoires. Eric passe en revue tous les muscles de Hugo, les détend, les alourdit, revient sur la nuque et les mâchoires, alourdit tout son corps, jusqu'à ce qu'il s'enfonce dans le lit, comme aspiré.
Tu es maintenant profondément détendu, ton cœur bat calmement, et tu n'écoutes plus que ma voix. Pendant que je compte à rebours à partir de 100, 99, 98, tu descends un escalier en bois sombre et verni. À chaque chiffre, tu descends une marche, et à chaque marche, tu deviens plus détendu, plus concentré sur ma voix.
Hugo imagine qu'il descend un grand escalier menant à un immense vestibule. Continue à descendre. 84, 83,
tout le reste s'efface, dit Eric. Il ne reste que l'escalier, recouvert d'un tapis rouge moelleux. Tu continues de descendre. Le calme s'installe dans ton corps. 82. Les marches sont de taille parfaite. 81. 80. Hugo remarque que le commissaire entre dans la pièce et s'assied sur la chaise vide, et il ressent une forme d'apaisement avant de totalement lâcher prise et de continuer sa descente. Progressivement, Eric cesse de décrire l'escalier et se concentre uniquement sur la respiration, la détente et la concentration intérieure. Soudain, Hugo remarque que l'escalier en bois sombre et brillant commence à osciller sous ses pieds, qu'il réagit avec de légers soubresauts à chacun de ses pas. 65. 64. Maintenant, il n'existe plus rien d'autre que ma voix et le sens de mes mots. Hugo voit la brillance du bois se ternir et virer au métallique, puis l'escalier se tordre pour devenir une gigantesque vis. 40. 39. 38. Comme dans un rêve, Hugo descend maintenant un escalier en colimaçon en acier. Il s'enfonce droit dans un puits étroit. Il s'accroche à la rampe froide, sentant la structure trembler et vaciller à chacun de ses mouvements. 27. 26. De la terre sèche tombe le long des fixations éteintes légèrement contre le métal. Le rythme du décompte ralentit, entraînant avec lui sa respiration, comme dans un sommeil profond. Pourtant, dans sa tête, il se met à courir. 19. Son corps est incroyablement lourd, comme s'il était recouvert de plusieurs couches de couettes, ou comme s'il avait pris une surdose de l'air gigant. 14. 13. Il a l'impression qu'une force irrésistible l'enfonce dans le sol. 12. 11. Dit Eric d'une voix douce et monotone. Tu continues de descendre. Et lorsque j'arriverai à zéro, tu seras de retour au camping de Bredingue le 26 novembre. La femme blonde est sur le point d'entrer dans la caravane. Mais avant qu'elle n'ouvre la porte, tu as le temps de voir son visage se refléter dans la vitre. La neige tombe du ciel noir et forme une petite auréole sur l'antenne parabolique de la caravane. Yona observe le visage détendu du garçon dans l'obscurité et détourne ensuite son regard vers l'un des écrans où sont projetées les ondes gamma actives dans le cortex cérébral de Hugo. La faible lueur des moniteurs scintille dans les yeux grands ouverts du docteur Grint. 10. 9. 8. Dit Eric lentement. Tu es complètement en sécurité. Tu ne ressens aucune inquiétude. La main droite de Hugo tressaille et Eric pose la sienne dessus, notant ses respirations calmes et régulières avant de poursuivre le compte à rebours. 7. 6. 5. Tu vas bientôt tout raconter sur ce que tu vois au camping, sans ressentir aucune peur. Des mouvements se dessinent sous ses paupières closes. Le camping est vide, fermé pour la saison, dit Eric. Le ciel est noir et la neige tombe de plus en plus densément. Le docteur Green se lève de sa chaise et semble vouloir dire quelque chose. 4, 3, 2, 1, 0. Et maintenant, tu te tiens à quelques pas de la caravane et tu vois la femme qui s'avance vers la porte. Maman, murmure Hugo.
Je ne pense pas que ce soit ta mère, lui répond Eric. Je pense que ta mère fait partie du rêve et...
Il faut qu'on se cache,
l'interrompt-il d'une voix aiguë. Eric pose une main apaisante sur son épaule. Tu es en sécurité ici. Tu es détendu. Respire lentement. Sens le calme dans ton corps. Et maintenant, tu regardes à nouveau la femme devant la caravane. Tu vois la neige qui tombe, les flocons qui se posent sur sa perruque blonde.
Ce n'est pas maman. Je croyais suivre maman, mais...
Hugo, attends un peu. Il n'y a pas de précipitation. Tu inspires par le nez, expires par la bouche. Et écoute ma voix. Tu marches en dormant. Tu crois voir ta mère dans le camping. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est dehors, près de la caravane.
Oui,
murmure-t-il. Tu peux voir son visage?
Non,
répond-il doucement, comme un soupir. Je pense que tu la vois, dit Eric.
Ce n'est pas possible,
répond Hugo d'une voix plus haute, et il secoue la tête.
Il ne va pas bien, dit Grint. Détends-toi,
continue Eric. Respire lentement, et quand tu te sentiras prêt, raconte-moi ce que tu vois.
Elle tient une hache,
dit Hugo d'une voix pâteuse, en humidifiant ses lèvres. Dans quelle main?
Dans la droite, et elle doit un peu tourner son corps pour pouvoir ouvrir la porte avec la main gauche et... Non, non!
Peut-être qu'on devrait arrêter, demande Grint.
Que se passe-t-il?
Murmure Agnetta en portant sa main à sa bouche. Regarde son reflet dans la vitre de la porte. Et raconte-moi ce que tu vois, dit Eric.
J'ai pas le temps. Ça défile juste. Des pommettes blanches, des orbites, je sais pas. Elle est déjà dedans. Et j'entends plein de bruit et des cris enragés.
Hugo se tait, retient son souffle et commence à trembler de tout son corps. Laisse l'air sortir doucement entre tes lèvres. Et maintenant, respire lentement, dit Eric. Tu es détendu. Expire. Et raconte-moi ce qui se passe au camping.
Je ne sais pas,
murmure-t-il. Tu es dehors, près de la caravane, et tu entends des cris, dit Eric.
Qui crie?
Demande Yona d'une voix calme.
Qui crie?
Demande Eric.
L'homme. D'abord, il semble en colère, mais maintenant... Maintenant, il est juste effrayé et perdu.
Que vois-tu?
Je vois... Des ombres qui passent rapidement devant la fenêtre lumineuse, je sais pas. Je contourne la caravane. Je monte sur un bloc de béton léger et je regarde à l'intérieur. Juste au moment où du sang éclabousse la vitre, mon Dieu, je tombe en arrière dans l'herbe. Je me cogne le dos contre une bonbonne de gaz. Je me relève, me dépoussière et je retourne vers la caravane. Je dois aller chercher maman. On doit se cacher, c'est tout ce que je pense. Je m'en fiche, je fonce droit dedans.
Le corps de Hugo se tend. Et de la sueur coule sur ses joues. Que vois-tu? Demande Eric doucement.
Un policier. Il me crie dessus, je comprends rien. Je suis allongé par terre, j'ai des bourdonnements dans les oreilles. Il y a une odeur d'arme à feu.
Mais que se passe-t-il avant ça? Demande Eric.
J'ouvre la porte de la caravane et j'entre.
Hugo se tait soudain et ses paupières se figent. Que vois-tu en premier?
Un policier avec une arme. Il me crie dessus. Il y a du sang partout.
Yona comprend que Hugo est en état d'hypnose profonde. Mais il n'est pas encore suffisamment immergé pour voir le massacre dans la caravane. Les images sont stockées quelque part, mais pour l'instant, il n'y a pas accès.
Retourne à l'arrière de la caravane, dit Eric. Monte sur le bloc de béton léger et reste là, juste avant que du sang éclabousse la vitre.
« Mon Dieu !»
murmure-t-il. « Tu vois un homme se faire tuer avec une hache, n'est-ce pas ?» Il hoche lentement la tête. Les anneaux dans son nez et sur sa lèvre inférieure brillent. « Hugo, écoute ma voix. Détends ton corps et respire calmement, dit Eric. Tu es absolument en sécurité ici. Et maintenant, tu vas voir un extrait de film sur ton téléphone, de la nuit où l'homme a été tué dans la caravane. Quelqu'un se tenait sur un bloc de béton et filmait à travers la fenêtre à l'arrière. Tu démarres la lecture au ralenti, et tu as tout le temps que tu veux pour me dire ce que tu vois. Hugo respire profondément. Sa voix se brise.
La femme a déjà tranché les deux pieds de l'homme. Il est allongé sur le dos, il respire fort. Il comprend pas ce qui se passe. La flaque de sang devient de plus en plus grande sur le sol. Ça coule le long d'une barre en laiton. Le tapis devient noir.
Continue de regarder le film, dit Eric.
Je vois la couleur de l'encadrement de la fenêtre, ma propre respiration sur le verre, et à l'intérieur, un vase rouge est brisé et une lampe de sol est renversée, son abat-jour à motif peau de serpent est taché de sang. La femme se tient au-dessus de l'homme, dos à la caméra, elle se penche en avant, et avec la pointe de la hache, elle trace lentement une coupure oblique sur son torse. Le sang coule. Et elle repositionne la hache. Mais à ce moment-là, l'homme crie et essaie de se redresser. Et ça la rend vraiment furieuse.
Hugo murmure, à peine audible. Yona et Eric doivent se pencher plus près de sa bouche pour réussir à l'entendre.
Elle enfonce la hache profondément dans le sol, juste à côté de sa tête,
marmonne Hugo.
Il continue de crier. Elle dégage la hache, la lève à nouveau et la lui enfonce dans le visage. Une énorme quantité de sang éclabousse la vitre.
Hugo ouvre les yeux.
« Une énorme quantité de sang, » répète-t-il.